se sont joints à nous, puis Daniel, ça fait un an qu'il est plus ou moins ici. Donc, j'ai pensé que ce serait peut-être le fun de le présenter un petit peu. D'abord, Daniel, c'est le fils de Céline et Hector Genet. Donc, vous, peut-être vous levez parce que les membres, les personnes ici vous connaissent. Donc, Daniel est le fils, le deuxième garçon de leur famille. Donc, Daniel est parti étudier, se prépare à travailler dans un ministère de traduction de la Bible. Wycliffe?
Bon, on verra,
OK. Mais en tout cas, un peu, pour ceux qui sont familiers avec Wycliffe, c'est ce genre de traduction-là. Merci, ton micro.
Ça marche.
OK, c'est bon.
Ouais.
OK. Ouais. Fait que là, Daniel, il a beaucoup de talent, parce que il sait qu'il parle le matin depuis 8h30 à soir. Alors, merci. Moi, j'appelle ça quelqu'un qui nous dépanne. On va faire une petite entrevue aussi, live, comme ça, puis improviser. Alors, Daniel, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles des expériences peut-être chrétiennes que tu as vécues qui t'ont marqué dans ta vie chrétienne.
OK. Une expérience qui a été importante pour moi, ça a été mon premier voyage missionnaire.
Okay.
Mon voyage en Roumanie que j'ai fait en 2005 avec l'organisation JET jusqu'aux extrémités de la Terre. Ça a été un point assez tournant dans ma vie, dans le sens que j'avais déjà donné ma vie au Seigneur quand j'étais plus jeune, quand j'avais à peu près 10-11 ans, mais c'était un point où que je venais juste de graduer de l'école secondaire, puis que je m'en allais au cégep, puis que je voulais avoir l'expérience d'un voyage, mais aussi ça donnait l'expérience de se donner pendant un certain temps à temps plein au Seigneur, puis de voir c'est quoi servir le Seigneur à quelque part où qu'on n'est pas familier ou quelque part qui est différent, dans un contexte différent, avec un groupe qui était de jeunes comme moi, qui quand j'avais 15 ans, qui voulait faire la même affaire. Puis ça a été une expérience assez tournante dans le sens que on a vraiment été bien encadré pour dans la parole de Dieu, pour avoir le désir de d'étudier la parole de Dieu, même une fois qu'on avait fini, puis de continuer dans cette voie-là pour voir si la mission, ça pourrait être notre appel à temps plein. Fait que ça a été le point qui a commencé à me faire réfléchir à mon futur. Comme ça, tranquillement, pas vite. Là.
OK. Je sais que par la suite, tu as fait un autre voyage missionnaire. Est-ce que c'était l'année tout de suite après?
Je suis retourné les deux étés d'après en Roumanie. Par moi-même après. Puis c'était plus avec le même groupe. Le groupe, à chaque été, ils vont à des places différentes. Et moi, je suis retourné en Roumanie par moi-même 2 mois l'été d'après, puis deux mois l'été d'après, puis 3 mois et demi l'autre été d'après.
OK. Mais tu as été aussi responsable à un moment donné, hein, avec ce groupe-là dans un des voyages?
Oui, en Espagne, en 2011.
OK.
J'étais un des leaders pour cette organisation-là.
Donc, il y a eu quand même une certaine progression, tu sais, dans ton développement qu'on peut voir. Tu es allé comme participant, puis ensuite par toi-même, puis ensuite comme leader pour l'organisation, t'encadrer des gens.
Oui, c'est ça. Ils ont différentes affaires qu'ils veulent pour quelqu'un qui est leader d'un des voyages. Un des prérequis, mettons, c'est d'avoir fait l'école biblique aussi.
OK.
Donc, c'est ça. Quand je suis allé à la fin de mon troisième voyage en Roumanie, je suis allé directement en Hongrie pour faire 2 années d'école biblique. Donc, quand je suis revenu après un an ou quelque chose comme ça, ils m'ont demandé si je voulais être leader du voyage en Espagne.
OK.
Puis c'est ça, pour la même organisation, puis avec un groupe. Là. Fait qu'on est allé en 2011 en Espagne.
Je sais que tu as fait aussi des études qu'on pourrait dire séculières, là. Donc, tu es allé chercher un bac, c'est bien ça, un bac?
Ouais.
Un bac à l'université ordinaire.
À l'université Concordia à Montréal, là, ouais.
Parfait. Donc, dans quel domaine tu as fait ton bac?
En linguistique.
OK. Ouais. À quel moment tu dirais que tu as décidé... je veux servir le Seigneur à temps plein. Bon, tu aimais déjà la linguistique, donc ça fait du sens. Puis je trouve ça le fun parce que ça rejoint un petit peu ce que notre frère Jean-Martin parlait la semaine passée, que quand Dieu nous appelle, c'est rare que c'est complètement séparé de qui on est puis de ce qu'on aime aussi. Puis donc la linguistique, la langue, les mots, les sons et tout ça, c'est sûr que c'est très proche de la traduction. Donc, toi, tu voulais te former premièrement en linguistique. Est-ce que tu savais déjà à ce moment-là que tu t'en allais en traduction ou non?
Non.
Non, pas à ce moment-là. OK. Donc, tu as fait tes études, ton bac, puis à quel moment tu as dit « je veux servir le Seigneur à temps plein, puis c'est là-dedans que je m'en vais? »
Bien, servir le Seigneur à temps plein, ça a commencé à... Ça a commencé à me trotter dans la tête quand j'ai fait mes premiers voyages.
OK. Mais tu savais pas dans quel domaine.
Non, non, c'est ça. Okay. Quand j'étais à l'école biblique, encore, je pensais à ça, puis je me disais un peu, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire, dans quel domaine que je vais aller, parce que c'est, je veux dire, c'est bien beau de dire, je veux aller en mission à temps plein, mais à faire quoi, c'est une autre question. Puis, qu'est-ce que tu vas faire spécifiquement, c'est une autre question. Puis, c'est que ça a pris un certain temps. À un moment donné, j'ai quasiment laissé l'idée de côté, puis je me disais, ben, je vais continuer en linguistique, puis je fais mon bac, je vais continuer en linguistique plus loin. Fait que l'idée de me diriger vers la traduction, ça s'est venu, dans, je sais pas si c'était ma dernière session, de mon bac, ou l'autre session d'avant, fait que ça fait comme un an et quelques. C'était vers la fin, là, je me disais, puis il faut que je continue en linguistique, j'applique pour une maîtrise à quelque part, mais qu'est-ce que je fais, puis là, ouais. En tout cas, je peux expliquer plus, mais c'est ce que j'explique là aussi.
C'est comme tu veux, tu pourrais expliquer plus tantôt aussi.
Ouais, bon.
OK, donc, ben, en tout cas, je pense que ça nous situe. Au plan personnel aussi, je pense que t'es fiancée.
Ouais.
Ça marche toujours?
Ouais.
Avant de demander, je suis allée voir sur Facebook les photos. OK, c'est beau, ils sont encore là.
Ouais.
Alors, la vie, hein, des fois, nous réserve des surprises. Je ne vais pas me faire avoir. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu te maries cet été. C'est quoi la date?
Le 2 août.
Le 2 août, OK. T'es prêt?
Oui. Bring it on.
Bring it on.
J'espère.
Alors, en tout cas.
Mais
donc, toi, tes études, tu es en ligne. Tu as un an de complété.
Oui.
Il te reste?
Un an et demi après.
OK. OK. Donc, en tout cas, je pense que ça a été le fun de connaître Daniel un petit peu de ce côté-là. Il va nous apporter un petit peu son parcours de l'année qui vient de passer, ses réflexions, tout ça. Je pense que c'est le fun aussi de le garder en prière, en particulier pour ses études, les préparations pour son mariage. Et puis, le mariage aussi, ta future épouse, elle va déménager avec toi en Colombie-Britannique. OK.
Ouais.
Donc, un temps d'adaptation pour elle dans un nouveau pays, etc.
Ouais. Ouais.
OK. Écoute, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Avant que de te laisser la parole, je veux juste savoir, t'es dans le coin pendant combien, jusqu'à quand?
Jusqu'à mercredi.
OK. Après ça, tu t'en vas en Allemagne,
ouais.
Faire les préparatifs pour le mariage, ouais. Puis t'as un mois de préparation là-bas.
Ouais.
Là, tu te maries, puis après ça?
Ça, on revient.
OK.
Autour du 14 août.
OK.
Je suppose qu'on va être à l'église le 18.
OK, mettez ça. Dans vos agendas pour les photos?
Ouais. Je suppose que oui. Puis là, le surlendemain, je suis en repart.
On va quitter pour là-bas. Ouais. Écoute, je suis vraiment excitée. Puis je sais qu'on a des jeunes parmi nous. Puis des fois, on se dit, mais moi, est-ce que Dieu m'appelle? Puis je suis contente que tu aies pris le temps de nous partager ça parce que je trouve que c'est bien des fois quand même d'entendre que même à un jeune âge, tu sais, 15 ans, c'est quand même jeune, de dire, toi, en étant exposé, t'as vraiment eu à ça à cœur, même si t'étais pas précis, t'as continué à chercher. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole. Je vais peut-être juste prier avant que tu parles. Seigneur Dieu, tu es un Dieu extraordinaire. On chantait tantôt que le pauvre dise « je suis riche », que le faible dise « je suis fort ». Et Seigneur, on était tous faibles à certains égards dans nos vies. Et on était tous très pauvres, en tout cas spirituellement, avant de te connaître. Et quelle bénédiction, Seigneur, de t'avoir dans nos vies, de pouvoir te célébrer. Je pense à tous les chrétiens qui se réunissent à travers le monde, Seigneur. Que chacun puisse être fortifié dans son âme. Je te prie pour notre Église ici, que Daniel puisse être un instrument de tes mains pour nous encourager, qu'on puisse repartir avec un encouragement, une parole qu'on recevra. Je te prie qu'on soit ouvert au Saint-Esprit, Seigneur, qui va nous parler. Au nom de Jésus. Amen.
Bon, mais bon matin. C'est le fun d'être ici parce que j'étais pas sûr si j'allais vraiment pouvoir venir quand j'ai décidé que j'allais passer à Montréal. J'étais pas sûr si j'allais avoir le temps de venir à l'église. J'ai vu dans le bulletin que c'est marqué que je suis débarqué de l'avion hier. Je suis pas débarqué de l'avion, je suis débarqué du char. fait que je suis parti mercredi après-midi de Vancouver en auto, puis j'ai traversé par le nord des États-Unis. Je suis arrivé hier après-midi quand quelqu'un qui Claire m'a croisé moi puis Ben au métro pour puis ça faisait comme 2 heures que j'étais arrivé genre puis le Puis quelques heures plus tard, le soir, elle m'a appelé, puis elle me dit, ça tente-tu de te présenter demain, qu'est-ce que tu fais? Dommage que tu m'aies pas appelé il y a quelques jours, j'aurais eu à peu près 45 heures dans l'auto pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce que j'aurais partagé, mais malheureusement, j'en ai eu à peu près une heure hier soir. Mais, ouais, c'est ça, mais je cherchais à partir, je voulais travailler le plus possible avant de partir pour ramasser le plus d'argent possible pour le mariage, toutes ces affaires-là, avant de venir ici. Fait que j'ai timé que je partais le jeudi matin. Vraiment tôt pour m'en venir ici. Ça, je serais arrivé hier soir aux alentours de minuit, 1h du matin. Mais le travail m'ont donné mon dernier shift. Mercredi, à 3h, je finissais. Fait que j'ai dit, pourquoi j'attendrais jusqu'au lendemain pour partir? Je vais partir à 3h, puis je vais m'en venir. Fait que, je pense que le Seigneur orchestrait ça un peu pour que j'aie l'opportunité un peu de partager qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que sinon, je serais peut-être en train de dormir, là, à la maison. je suis un petit peu grippé encore. Fait que si je tousse, je vais essayer de boire de l'eau. Mais ouais, c'est fun de pouvoir partager un peu qu'est-ce qui se passe parce que vraiment c'est vraiment cool. Vous me dire la place où je suis en Colombie-Britannique à l'école. L'école s'appelle Canada Institute of Linguistics. Il y a une photo de Trinity Western University sur le feuillet. C'est vite, Claire. Ouais, c'est le bâtiment principal de l'école. C'est la bibliothèque de l'école en fait. Hein. Puis mon école, le Canada Institute of Linguistics, ça fait partie de Trinity. Ben c'est à Trinity. C'est deux écoles qui fonctionnent un peu ensemble, mais qui sont aussi séparées. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est comme une école dans une école. c'est le centre vraiment de la formation pour le travail de traduction de Bible puis ça, mais au Canada. Fait que c'est pas mal n'importe qui veut se lancer en traduction de la Bible avec Wycliffe ou avec une autre organisation comme Pioneers, Bible Translators ou quelque chose comme ça, des différentes organisations qui existent. Beaucoup vont aller à CanIL. CanIL, c'est Canada Institute of Linguistics, mais court, là. Beaucoup vont aller là. Ou ils vont aller à des écoles aux États-Unis, mais au Canada, c'est vraiment la place principale pour y aller. Fait que je suis avec des étudiants, on doit être une centaine d'étudiants à peu près qui sont là pour être formé pour faire différents jobs ou différentes parties du travail qui mènent, en fin de compte, à la traduction de la Bible dans une langue quelconque, à quelque part dans le monde. Fait que ce que j'aimerais vous partager un petit peu le matin, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé cette année, comment ça s'est passé à l'école, quel genre de choses qu'on apprend, puis comment qu'on est formé un petit peu pour se rendre à ce point-là avec le but ultime de faire du travail de traduction. Comme Claire disait, je savais pas à quoi le Seigneur m'appelait exactement jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Quand j'ai fait mes premiers voyages missionnaires, ça m'a mis ça à cœur. J'avais ça à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire la mission, mais je savais pas quoi, je savais pas comment, je savais pas avec qui, je savais pas où, je savais pas toutes ces affaires-là. Mais j'avais l'impression que le Seigneur m'appelait à faire du travail pour lui à temps plein. Puis j'ai comme gardé ça en moi pendant longtemps, comme pendant quelques années, j'ai décidé comme ok, je vais probablement faire ça d'une façon ou d'une autre. Puis quand j'étais à l'école biblique aussi, je planifiais faire ça un peu à long terme. Mais quand je suis revenu puis que j'ai commencé à faire mon bac puis ça allait bien puis là j'ai commencé à me dire ben je peux juste pousser mes études en linguistique puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça mais la recherche ça m'intéressait vraiment puis je sais pas trop sûr comment ça allait marcher mais quand j'ai fait juste avant ma dernière année de mon bac c'est là que je suis retourné avec Jeff comme leader pour le voyage puis c'est là que ça m'a tellement travaillé encore puis ça me le Seigneur m'a dit comme qu'est-ce que tu fais pourquoi tu t'enlignes vers autre chose quand je t'ai dit t'avais déjà ça à cœur, tu t'en vas pour faire du travail pour moi, puis là, j'ai fait comme, c'est vrai. Je m'en allais dans la mauvaise direction encore, même si je savais, ok, le Seigneur m'appelle dans cette direction-là, je suis en train de m'enligner vers autre chose, puis c'est pas, je savais qu'il m'appelait pour ça, puis j'ai juste laissé cette idée-là de côté. Mais là, la question c'était, c'est quoi maintenant, là, je suis en linguistique, j'ai fait une première session en business à l'université, puis j'aimais pas trop ça, ou ça a pas cliqué, fait que j'ai fait comme, je veux faire quelque chose avec les langues. Quand j'ai fait mes voyages, j'ai appris le roumain. Quand j'étais en Hongrie, j'ai commencé à apprendre le hongrois. J'ai appris l'allemand aussi pendant que j'étais là-bas. J'ai dit, OK, il faut que je fasse quelque chose avec les langues, là, quelque part là-dedans. Là, comme il n'y a pas une raison quelconque pourquoi je suis en train d'apprendre des langues comme ça. Puis ça m'intéresse, puis je trouve ça le fun, puis je trouve ça pas trop difficile. Fait que je cherchais, puis à un moment donné, je suis tombé justement, ma mère m'a donné un site avec des universités chrétiennes au Canada, puis je suis tombé sur CanIL justement, puis je lisais la description du programme, puis à quoi ça menait, puis ça, puis je me disais, OK, c'est comme exactement ce que je cherche, comme une façon de continuer avec la linguistique, puis avec la passion que j'ai pour apprendre les langues, pour travailler avec les langues, puis tout ça, puis aussi pour faire du travail pour le Seigneur à temps plein, c'est vraiment un fit parfait. Fait qu'en dedans de quelques jours, j'ai appliqué pour l'école, puis en septembre, j'ai commencé. C'était juste avant, je pense, ma dernière session, ou à peu près au point de ma dernière session. Puis en allant là-bas, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais pas trop comment ça allait être comment les cours exactement. Je venais de faire un bac en linguistique. J'ai appris que mon bac en linguistique ici était très différent de la maîtrise que j'allais faire en linguistique là-bas. Les points de vue sont très très différents, les objectifs sont très différents. Je vais pas donner un cours de linguistique là pour expliquer les différences, mais les buts sont tellement différents que un me servait pas grand chose pour l'autre. Ce que j'ai appris ici était pas directement pertinent pour ce que je suis en train de faire là. Juste la base que j'aurais pu faire en 2-3 cours d'introduction à la linguistique, puis j'aurais été correct. Le reste, c'est, je considère ça comme étant complémentaire, puis une connaissance plus générale du domaine. Mais le programme que moi je fais, ça s'appelle le Master of Applied Linguistics and Exegesis. Fait que c'est la linguistique appliquée et une partie qui est exégèse, donc une partie d'études bibliques, une partie de théologie, puis toutes ces choses-là, pour l'aspect de traduction de la Bible. Parce qu'il y a des gens qui vont à cette école-là juste pour faire une maîtrise en linguistique, puis ils n'ont pas la partie exégèse. Mais eux, il y en a qui vont aller en traduction parce qu'ils ont déjà, mettons, un bac en théologie, un bac en études bibliques ou quelque chose comme ça. Ou il y en a qui avaient déjà des MDiv. Il y a des étudiants qui étudient avec moi qui ont déjà un MDiv, puis ils décident de venir faire juste la maîtrise en linguistique. MDiv, c'est un programme que les gens vont souvent faire pour être pasteur. Donc, maîtrise dans le fond. Ouais. Claire et Benoît, je pense qu'ils ont les deux en fait ça. Ou en tout cas, un des deux. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà la formation biblique quand ils arrivent là-bas, puis ils vont faire juste la maîtrise en linguistique, ou les gens vont juste faire la maîtrise en linguistique puis font autre chose. Dans la recherche, n'importe quoi. Mais moi, c'est linguistique appliquée et exégèse. Donc, il y a la partie théologique et études bibliques qui est donnée par le séminaire à l'école là-bas. Donc, c'est des cours de séminaire et des cours de linguistique que j'ai. C'est c'est quasiment deux programmes en un, ou deux chemins différents, deux directions différentes, mais pour un programme. pour vous donner une idée de l'image globale de la situation pour la traduction de la Bible, on en parle souvent à l'école. Il y a à peu près entre 6800 puis 7000 langues dans le monde, dont à peu près 2100 ont pas aucune phrase, aucun mot de la Bible traduit dans leur langue. Donc il y a à peu près le tiers des langues du monde qui ont rien de traduit dans leur langue. Donc je veux dire, il y en a qui vont dire souvent, ah ben, tu sais, s'ils comprennent l'anglais un peu, ils vont pouvoir prendre une Bible en anglais, ou un petit peu de français, ils vont prendre la Bible en français. Mais comme ici au Québec, un exemple qui pourrait être de ça, c'est comme à quel point ça peut-être marcher un petit peu, mais pas vraiment. C'est beaucoup de gens ici comprennent un petit peu l'espagnol juste parce que c'est semblable, ou qui en ont appris un petit peu au secondaire. Mais essayez d'aller faire des études, puis faire la cellule, puis à l'église, puis tout ça, si on prêchait tout le temps en espagnol, on comprendrait pas grand-chose. Si vous faisiez votre culte personnel dans une Bible en espagnol, la grande majorité, on comprendrait pas. Si c'est pas l'espagnol, c'est l'italien. C'est assez proche pour dire que c'est des langues reliées, ou qu'on en connaît un peu, mais ça nous permettrait pas d'approfondir notre connaissance de la parole de Dieu, puis ça nous permettrait pas non plus d'avancer dans notre foi si on comprend pas qu'est-ce que la parole est en train de nous dire, ou qu'est-ce que Dieu veut nous partager à travers sa parole. Donc le but, c'est vraiment de traduire la Bible dans les différentes langues du monde pour que tout le monde puisse avoir accès à la parole de Dieu dans la langue qu'ils comprennent, ce qu'on appelle le heart language, vraiment la langue qui va les toucher, qui va avoir un impact, donc la langue qu'ils comprennent le mieux, leur langue maternelle. Beaucoup de gens qui vont se lancer dans ce programme-là vont se ramasser, beaucoup de gens vont se ramasser en Asie, il y en a qui vont se ramasser en Afrique, il y en a en Amérique du Sud, il y en a un peu partout dans le monde, il y en a même au Canada. Ma mère, elle travaille avec un groupe de traduction de la Bible ici à Montréal pour la langue Mohawk. Donc ça se fait partout. Mais la plupart des gens avec qui les professeurs et les gens avec qui j'interagis beaucoup, il y en a beaucoup qui sont allés en Afrique, au Cameroun, des places comme ça. Il y en a qui sont allés au Soudan, il y en a qui sont allés, comment on appelle ça, Papua New Guinea, en Papouasie. C'est une place où il y a 480 langues différentes pour à peu près 6 ou 7 millions d'habitants. C'est minuscule. Si on regarde une carte, c'est dommage, avoir plus de temps, j'aurais pu préparer plein d'images, plein de choses que vous auriez pu voir, mais à regarder une carte, il n'y a quasiment pas de place sur une carte. Si on faisait une carte de la Papouasie sur ça, il n'y aurait quasiment pas de place pour mettre toutes les langues et les sections où c'est parlé sans que l'écriture soit embarquée une sur l'autre. Fait que on peut être dans un village à une place, puis à quelques kilomètres, c'est un autre village, mais c'est une langue complètement différente, puis ils sont pas intelligibles, ils peuvent pas se comprendre s'ils se parlent. Il y en a des fois que c'est relié un petit peu, fait qu'il va y avoir des projets de traduction qui s'appellent des cluster projects, c'est des regroupements de langues, puis ils vont travailler sur la traduction pour que ça soit assez proche de toutes les différentes langues, puis facile de travailler sur plusieurs langues en même temps pour se ramasser avec des traductions dans plusieurs langues le plus vite possible. Fait que des langues sont assez semblables souvent, où ça va être des différents dialectes. Il y a des projets comme ça dans ces places-là. Fait que ça, c'est des grosses équipes qui vont être là. Ils peuvent être quelques dizaines de personnes qui vont travailler là-dessus. Si les ressources sont... S'il y a des personnes qui y vont. J'ai entendu une présentation il y a quelques semaines d'un monsieur qui travaille justement au Cameroun. Il cherche beaucoup de monde. Ils sont comme à peu près 10% de ceux qui ont besoin des gens pour travailler sur leur cluster project de 10 langues qui travaillent en même temps là-bas. Parce que c'est assez intéressant. Mais... pour se préparer pour ça, je peux vous donner un aperçu des cours que j'ai pris cette année. Ma première session, j'ai pris ce qu'ils appellent le Killer Pack, ils ont changé le nom pour le Turbo Pack maintenant, c'est plus positif que le Killer Pack. C'est trois cours de linguistique, un qui s'appelle Syntaxe et Sémantique, l'autre c'est Language and Culture Acquisition. Fait que l'acquisition des langues et de la culture, et l'autre cours, c'est Field Methods. Cours de syntaxe et sémantique, si vous n'avez pas aimé votre cours de grammaire au secondaire, ou vous essayez d'apprendre l'anglais ou l'espagnol ou n'importe quelle langue, puis vous n'aimez pas la partie de grammaire, faites jamais ça de votre vie. C'est la grammaire au point le plus intense que vous allez jamais faire. Des concepts qui sont complètement inconnus, comme qui sont... des choses de grammaire qui n'existent pas en français, qui n'existent pas en anglais, qui sont dans... Il y a quelques langues, peut-être trois langues qui ont un certain aspect de la grammaire. Bon, voici comment ça fonctionne. On travaille tout le temps avec des langues qu'on comprend pas ce que ça dit. Il y a quelques mots pour traduire, puis c'est tout divisé pour nous montrer c'est quoi chaque mot, puis quel genre de mot. C'est un verbe, ceci. Fait que ça, c'est vraiment intense pour essayer de comprendre ça, pour voir c'est quoi toutes les possibilités. Tout fonctionne dans la grammaire, comme ça, si on se ramasse sur le champ missionnaire à quelque part, puis on travaille avec une langue qui n'est pas écrite, qui n'est pas analysée encore, qui n'est pas expliquée comment elle fonctionne, bien, on peut aller là-bas, puis on peut faire toute l'analyse, puis développer ce qu'on appelle la grammaire de cette langue-là, puis la publier, puis la rendre disponible pour tout le monde qui va se pointer là après. Fait que ça, c'est un cours qui est axé sur ça. Le cours Language and Culture Acquisition, le but, c'est d'être mis dans une situation où que on est capable d'apprendre une langue avec une personne ressource qui parle une autre langue différente de nous, mais sans que cette personne-là ait besoin de nous l'enseigner comme telle, sans que cette personne-là ait besoin de préparer de quoi, comme un professeur. Fait que c'est comme si je pouvais, avec le cours, ce cours-là, c'est comme pour nous préparer pour aller n'importe où. Je pense que tu peux aller pitcher dans la jungle au Brésil ou n'importe où. arriver avec un peuple qui ne parle pas un mot d'anglais ou de français ou d'une langue qu'on connaît. On n'a aucune langue en commun. Puis le but, c'est comment est-ce que maintenant j'apprends leur langue? Comment est-ce que je fais pour les comprendre? Qu'est-ce que je peux faire pour que j'apprenne ou que je comprenne qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire pour pouvoir l'apprendre et moi-même être capable de parler cette langue-là avec eux? Fait que ça, c'est un cours qui est axé sur ça. Nous, pour pratiquer, on avait une personne ressource qui parlait le Swahili. Fait que toute la session, on utilisait des différentes méthodes pour essayer d'apprendre le Swahili. Posez-moi pas de questions parce que je m'en souviens vraiment pas. C'est assez difficile. C'est assez difficile à faire ça, surtout quand la personne ressource elle parle l'anglais, puis qu'on veut lui poser des questions, mais comme c'est quoi cette affaire-là, puis ils n'ont pas le droit de nous répondre ou ils vont juste ignorer la question. Puis c'est comme il faut tout faire nous-mêmes. Le cours de Field Methods, c'est un cours pour apprendre justement à analyser une langue qui, quand on a si on va quelque part puis on écrit plein de phrases qui nous écrivent, c'est comme si je vous donnais mettons on se rencontrait, puis moi je parle anglais, vous parlez juste français, puis vous me posez plein de questions, des phrases à traduire, des questions par rapport à la langue, puis ça, puis vous écrivez tout, puis vous avez plein de phrases que je vous donne, des phrases complètes, puis là il faut que vous compreniez okay, comment est-ce qu'on accorde le pluriel, comment est-ce qu'on fait le pluriel puis le singulier en français, comment est-ce qu'on conjugue les verbes au présent, au futur, au passé, blablabla, toutes ces affaires-là, l'impératif, ça fonctionne comment, les objets directs, objets indirects, les prépositions, toutes ces affaires-là, tout analyser complètement comment la langue fonctionne. C'est un cours qui est axé sur ça quand on ne connaît pas la langue. Donc ça, c'est souvent, ces trois cours-là, c'est le début du programme, c'est vraiment la base de toute la formation qu'on reçoit, parce qu'une fois qu'on a ça, ça, c'est vraiment aussi la base du travail qui est fait quand il y a un projet de traduction qui commence à quelque part. C'est les gens vont là-bas, il faut qu'ils apprennent la langue premièrement. Souvent, ils ont 2 ans dédiés seulement à la langue, à temps plein, apprendre la langue de la place. Après ça, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est si la langue n'est pas écrite, n'est pas analysée, il faut qu'ils fassent cette analyse-là puis publient une grammaire. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, c'est là que... Dépendant des relations avec les gens de la place, puis dépendant de toutes les circonstances officielles qui se passent là-bas, il y a la possibilité de pouvoir commencer un projet de traduction à quelque part dans le monde, n'importe où. Donc ça c'est ce que j'ai fait ma première session. J'ai aussi pris un cours qui s'appelle Language and Society, qui est un cours de sociolinguistique. C'est un cours de bac, c'est un cours qu'il fallait que je prenne juste pour, c'est le seul prérequis qui me manquait. Puis j'ai eu l'opportunité d'être ce qu'on appelle un TA, comme l'assistant du professeur, la session passée pour ce cours-là après l'avoir fait dans ma première session. Donc j'ai eu la chance d'enseigner 2 cours aussi, un cours de 3 heures, un cours de 2 heures dans cette session-là. Sur le bilinguisme, le multilinguisme, et aussi sur les langues, comment est-ce que les langues, ouais, comment est-ce que les langues se perdent un peu et finissent par mourir? Puis comment ça se passe au niveau comme dans les différentes sociétés? Fait que ici, comment est-ce que comme les gens qui ont immigré ici, ça va être quoi l'impact sur leur langue? Puis tout c'est des erreurs de même. Là, qu'est-ce qui se passe au niveau social avec les langues dans le fond? C'est un peu pour donner un aperçu aux étudiants du rôle que les langues ont, puis avoir plusieurs langues dans une ville ou dans une place, comment est-ce que ça peut avoir un impact sur la société qui est là, sur les gens qui est là, sur la culture, sur différentes affaires. C'est vraiment un cours de base pour commencer. Puis moi, j'ai eu la chance de parler du dans le cours de bilinguisme et multilinguisme, on va parler beaucoup du Québec, la situation du Québec au Canada. Il fallait que je corrige des rapports qui écrivaient avec la question est-ce que le Québec devrait se séparer du Canada. Ça faisait partie de la comme il y avait est-ce que ouais par rapport à la loi 101 puis tout ça puis tout pour essayer de comprendre la situation du Québec dans le Canada, parce que la plupart des étudiants sont pas du Québec, beaucoup de ce que je vois, ils connaissent pas la situation, ils en ont pas entendu beaucoup parler puis tout ça, fait qu'il faut qu'ils recherchent ça, puis il faut qu'ils analysent ça, parce que c'est très intéressant de lire ça. Ouais, en tout cas, fait que c'est le genre de formation qu'il y a déjà au début du programme. Dans cette deuxième année, une fois que j'ai fait les cours de base, là, je peux commencer à choisir des cours qui sont un peu plus spécifiques, un petit peu plus avancés des fois. Mais cette session, j'ai quand même encore gardé ça un peu basic. Je prends un cours qui s'appelle les principes de traduction, où que notre tâche pour la session, c'était de traduire un texte d'une langue aux Philippines qui s'appelle le Sama à l'anglais. C'est un vrai texte que quelqu'un a dit ou c'est une présentation que quelqu'un a faite aux Philippines qui a été écrite, puis nous il fallait qu'on le traduise à l'anglais. On avait des ressources pour le faire là, c'est pas comme si tout d'un coup je parlais la langue puis j'ai décidé de traduire en anglais, mais je connais pas la langue du tout, mais c'est un cours pour apprendre comment qu'on fait ça, c'est quoi les difficultés qu'il y a, c'est quoi les choses auxquelles on peut faire face avant de pouvoir faire de la traduction, les choses qu'il faut comprendre par rapport à la langue, par rapport à la culture, puis tout ça juste avant de pouvoir traduire quelque chose pour que ça soit représentatif de ce qui est vraiment dit avec l'intention qui vient derrière ce qui est dit, puis que ce soit vraiment compris comme si c'était écrit mettons en anglais quand une fois qu'on l'a traduit. Ouais, voilà. Ensuite, j'ai pris un cours qui s'appelle principe d'alphabétisation. Donc où on apprend c'est quoi un peu la situation avec l'alphabétisation dans le monde, puis après ça c'est quoi les techniques et les méthodes qui sont utilisées pour si tu vas dans un coin du monde où que y a beaucoup de gens qui sont analphabètes, qu'on peut leur apprendre à lire, à écrire, puis ça peut être utile pour eux d'avoir ça. Et ensuite j'ai pris un cours d'herméneutique au séminaire, donc pour l'interprétation de la Bible, puis comprendre la Bible, puis l'étude de la Bible. Ça, c'était mon autre cours. Donc, ça, c'est les cours que j'ai pris cette session. Ce que j'ai pris à date, je vous dirais, ça donne vraiment une bonne idée du challenge pour se lancer en traduction, dans le sens que un peut pas fonctionner sans l'autre. Si on va dans une place où un peut pas... Si une chose n'est pas là, l'autre chose peut pas être là. Si on va à une place où que la langue n'est pas, il y a personne qui parle notre langue, il faut apprendre la langue avant. Il faut savoir comment apprendre la langue. Si on va à une place où que la langue n'est pas écrite, il faut développer. Ah oui, dans le cours de principe d'alphabétisation, on apprend aussi comment développer un système d'écriture pour une langue qu'il n'y en a pas. Donc si on va à une place où que la langue n'est pas écrite du tout, faut pouvoir l'écrire puis avoir un système, un alphabet pour la langue. Si on va puis s'ils n'ont pas d'alphabet, en fait, ben c'est sûr qu'ils vont probablement pas savoir comment lire ou écrire. Fait que c'est tout un processus à travers lequel il faut passer. Il faut apprendre la langue, il faut analyser la langue, il faut l'écrire, et puis après ça, il faut leur apprendre à écrire et à lire la langue. Puis après ça, c'est juste à ce moment-là que l'idée d'avoir une traduction de la Bible dans cette langue-là peut être utile. Comme avant ça, c'est pas utile. Si la langue n'est même pas écrite, comment est-ce qu'on peut traduire? Ça se fait pas. Mais ça peut être des projets qui prennent des années et des années. À faire dans le fond ou à commencer. Tu parles des alphabets? Ça dépend vraiment. Ben, ça serait compliqué à parler de toutes les différentes possibilités, là, mais pour les alphabets, il y a différentes situations. Ça dépend s'il y a d'autres langues qui sont écrites dans le coin. Est-ce qu'on prend un alphabet qui est proche du leur, ou est-ce qu'on prend quelque chose comme l'alphabet latin, quelque chose comme ça, puis on modifie pour que ça fitte avec leur situation. Ou ça dépend. Il y a des questions il y a beaucoup de questions qui sont sociales aussi dans différents pays. Si on va dans un pays qui est très musulman, ou qui écrivent toutes, ouais, mais qui écrivent toutes, mettons, avec l'alphabet arabe, et que nous on va là puis on dit on va prendre l'alphabet latin. Déjà là, ça peut causer des problèmes juste pour le peuple qui est là, que non seulement, ok, maintenant ils vont avoir une Bible qui est là, puis une Bible qui est traduite dans la langue, mais ils prennent même pas l'alphabet non plus. L'alphabet est rejeté, le côté c'est un rejet non seulement de la religion, mais après ça de leur culture, puis de toutes sortes d'affaires. Fait qu'il y a beaucoup de questions qui viennent en jeu dans ces choix-là. Fait que, mais je veux dire, ça c'est je veux dire, ça peut, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je dis là, mais je veux dire, c'est juste un exemple de situation où ça peut être problématique. Il y a des sociétés qui vont dire, il y a des groupes qui vont dire, justement, on veut se séparer de toutes ces affaires-là, fait qu'on veut pas prendre tel et tel alphabet. Il y a des suggestions qui sont faites, puis des fois, ça prend des mois et des mois à décider qu'est-ce qui va être fait pour le côté de l'alphabet puis le système d'écriture qui va être utilisé. Ouais. Vas-y, ma. Oui. Ouais. Ouais. Ça c'est une autre affaire auquel les organisations qui font la traduction sont très sensibles. D'habitude, ils feront pas un projet si le peuple est pas intéressé du tout. Si le peuple veut pas la Bible dans leur langue, ils vont pas forcer à avoir une traduction de la Bible dans leur langue. Si quelque chose comme ça, ce que tu disais, ils forcent pas rien. Mais ouais, il faut être très sensible à ça. C'est pour ça qu'il y a tout l'aspect culturel aussi qu'il faut apprendre, et pas juste le côté linguistique quand on va faire ces projets, ces études-là. Mm-hmm. Ça, je suppose que ça dépend. C'est pas facile à répondre pour moi parce que j'ai pas été dans ce contexte-là. Ça dépend de la situation. Ok. Mais moi, si j'allais dans une place comme ça, si je suis pas quelqu'un qui est ce qu'on appelle un surveyor, quelqu'un qui va être dans un pays, qui va aller pour justement aller dans ces groupes-là pour commencer le travail d'analyse de la langue puis tout ça. Une fois que l'analyse de la langue est faite puis tout ça, quelqu'un arrive puis qu'il y a un projet de traduction qui est commencé, c'est déjà tout établi comme quoi que ça va avoir lieu, puis c'est toute la base est déjà faite là-bas. Fait que, je dirais la difficulté d'habitude, c'est souvent les personnes qui vont aller dans une place, qui vont être les premiers à venir dans une place, puis trouver la façon de s'intégrer dans la culture là, puis dans le peuple qui est là, puis d'être accepté. Fait que ça peut être ça, c'est autant vrai pour quelqu'un qui fait de la traduction de la Bible, puis comme n'importe quel missionnaire qui va aller dans un peuple où il y a pas de missionnaires qui sont là, où qu'il n'y a pas personne de l'extérieur qui est là, ou qu'il y a juste des gens qui sont juste pas du tout intéressés à entendre parler de Dieu, qui rejettent complètement ça. C'est autant une difficulté pour quelqu'un qui va aller en traduction que n'importe qui d'autre. Fait que, je veux dire, il y a cet aspect-là aussi. Je sais pas si ça répond vraiment à... Oui, c'est ça. Mais la traduction elle-même, d'habitude, n'est pas faite. Comme moi, si je travaillais en traduction, je serais pas celui, le traducteur. Je serais la personne qui guide la traduction, mais qui serait faite par... La traduction elle-même serait faite par quelqu'un qui parle la langue comme langue maternelle. Ou quelqu'un qui parle la langue très, très couramment. Parce que je veux dire, ce serait à peu près impossible pour quelqu'un qui parle de juste apprendre une langue en quelques années, puis de penser qu'ils peuvent traduire la Bible eux-mêmes dans cette langue-là, pour que ça soit acceptable et que ça soit conforme à la langue, que tout ce qui est communiqué dans la parole de Dieu soit communiqué aussi dans la langue. Je veux dire, c'est toutes les petites nuances, toutes les expressions, tout ça, c'est à peu près impossible pour quelqu'un qui vient de l'extérieur d'apprendre la langue à ce niveau-là, puis de faire la traduction. Fait que souvent, c'est quelqu'un qui va avoir une équipe de traduction, il va avoir quelques traducteurs, mais c'est ce qu'on appelle des mother tongue translators qui vont faire la traduction. Fait que c'est des gens qui parlent la langue comme langue maternelle. Ouais. Puis nous, fait qu'il va y avoir des conseillers pour la linguistique, des conseillers pour le niveau de connaissance de la Bible. Qui vont faire toutes les vérifications, qui vont aider, puis qui encore ça. Là. C'est vraiment, je veux dire, ils ont des gens, ces organisations-là comme Wycliffe, ils ont des gens qui c'est ça leur job à peu près à temps plein, aller voir différents projets, passer un certain temps avec chaque projet pour voir comment ça va, essayer de régler les problèmes potentiels, checker la traduction, voir si ça suit vraiment ce que la Bible dit. Parce que, ouais, c'est beaucoup de travail, c'est vraiment difficile de tout traduire bien. C'est que ça prend vraiment des spécialistes qui sont spécialisés en linguistique, des spécialistes qui sont spécialisés en dans la Bible, puis en théologie, puis en études bibliques, tout ça. Ok. Ouais, fait que c'est, les traducteurs, ceux qui travaillent comme traducteurs, c'est pas les traducteurs en tant que tels. C'est pas eux qui vont faire le gros du travail de traduction en tant que tel. Mais ils vont faire tout ce qui encadre le travail. Puis d'habitude, ils vont former aussi la personne qui va faire la traduction elle-même pour savoir comment faire la traduction. C'est assez intense. Une affaire que j'ai appris cette année, c'est que c'est beaucoup de travail. C'est long, ça prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup de, dévouement. C'est des projets qui durent des années et des années et des années. Mon professeur qui me donnait le cours de traduction, c'est lui qui a travaillé aux Philippines. Puis il est à Canael, puis il fait encore la traduction avec le peuple là-bas. Il communique avec eux à distance. Puis il les encadre encore de cette façon-là, mais ils sont assez indépendants qu'ils peuvent continuer par eux-mêmes, puis avoir les gens qui checkent. Ils ont des gens différents qui sont là-bas, mais lui, il continue à faire ça à distance. Comme ça, mais c'est vraiment... quand on regarde toutes les différentes parties qui rentrent dans le projet de traduction, c'est très, très... ça travaille très, très ardu, très, très, très long. Mais... ouais. Je sais pas, y avait-tu d'autres questions? Hélène? Ah, je vais en parler après. Juste finir ce que... la raison pourquoi que je partage tout ça, puis que ça, j'ai ça à cœur, c'est vraiment la possibilité. Moi, je veux vous laisser savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui rentre dans ces projets-là, que vous ayez une idée de dans quoi je suis, dans quoi je me lance. Aussi dire un niveau qui est encourageant, c'est on est à peu près une centaine de personnes qui étudient présentement à cette école-là juste pour faire ces différents aspects-là. Il y a des gens qui spécialisent en alphabétisation. Il y a des gens qui spécialisent un de mes collègues qui veut devenir un surveyor, une des personnes qui va aller faire ces analyses préliminaires là des langues puis tout ça, puis d'aller vers des groupes qui ont peut-être pas encore quelqu'un qui travaille avec eux ou des choses comme ça. Il y a des gens qui se lancent directement à faire la traduction. Il y en a d'autres qui sont là puis ils veulent aider les organisations en développant des logiciels pour la traduction. Puis on a des logiciels assez intenses quand on pense à l'analyse grammaticale qu'il faut faire. Puis ça, on a des logiciels qui font tout pour nous. C'est magique là. C'est comme tu rentres tout, tu pèses enter, puis bam, ça vient te sauver des heures et des heures et des heures de travail. C'est vraiment fou là. Fait que des choses qu'au bac ils nous ont appris à faire à la main, c'est dans ces programmes là. On a passé des heures à les faire à la main, puis après ça on apprend comment on utilise un programme. C'est comme à apprendre à compter, puis à faire des multiplications, addition, division, puis ça. Puis après ça ils disent voici une calculatrice. Yeah, ça c'est pas mal de fun. En tout cas, fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire ces différents points là pour aller puis participer justement dans ces projets de traduction là. Moi, où que je m'enligne, qu'est-ce que je vais faire comme travail exactement, je sais pas encore. Je suis encore assis à la base que je me dis il y a quelques affaires qui m'intéressent. Hélène se demandait qu'est-ce que Renata va faire puis ça. Il y a des choses qu'il va falloir que je discute avec elle aussi parce qu'il y a différents aspects qui m'intéressent il y en a qui sont plus simples puis il y en a qui sont plus compliqués. C'est facile d'aller dans un projet qui est déjà commencé puis d'aider puis d'être une personne ressource au niveau de la linguistique. Je pourrais pousser mes études puis faire un PhD puis être une personne ressource, une PhD en linguistique puis être une personne ressource pour la linguistique, les complications avec les langues puis tout ça, puis juste aller aider des personnes un peu partout dans le monde à pousser leur analyse grammaticale pour être sûr que leur analyse est bonne pour qu'ils puissent faire une bonne traduction. Ou je pourrais me lancer juste pour faire de la traduction, ou je pourrais me lancer pour être surveyor aussi, mais c'est je sais pas encore exactement, puis je sais pas vraiment où non plus. Genre, on entend tellement d'histoires de partout qu'à chaque présentation que quelqu'un fait, je dis ça serait vraiment cool d'aller là. Mais à chaque fois, je dis ça à chaque fois, avec je sais pas. Mais fait que des choses pour lesquelles vous pouvez prier, c'est justement les gens qui sont là-bas, les gens qui sont en train d'étudier. À chaque session, il y a des gens qui sont acceptés par Wycliffe ou qui sont acceptés par Pioneer, puis ils disent ok, la session prochaine, j'ai fini mes études, je commence à trouver des gens pour me soutenir financièrement puis par la prière puis ça pour que je puisse partir d'ici un an ou choses comme ça. Des gens qui ont fini d'étudier, une fille que je connais, elle peut pas nous dire où qu'elle s'en va. Fait que c'est assez intéressant. Ça l'a frappé elle quand elle est venue qu'elle nous a parlé de ça, parce qu'elle est comme je viens d'être acceptée pour un projet puis maintenant je m'en vais, puis elle est comme mais j'ai pas le droit de vous dire où que je m'en vais. Oh, comme elle avait pas vraiment réfléchi encore à toute cette affaire-là. Elle savait qu'elle s'en allait là-bas, mais une fois qu'elle avait le droit de comme dire que c'était accepté, que c'était officiel, elle s'en va quelque part, puis qu'elle a réalisé qu'elle pouvait pas dire où qu'elle s'en allait, ça l'a frappé de la réalité de la chose. Je m'en vais dans un pays où que le monde devrait pas savoir je suis où, parce que je me mets en danger, je mets les gens avec qui je travaille en danger, puis des choses comme ça. Fait que ça c'est assez. Vas-y, man. Oui, il y a ces personnes-là, mais il faut aller vers eux puis leur parler de leur dire qu'on cherche un peu qu'est-ce qu'on devrait faire. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent là-bas puis ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Même qu'ils commencent le programme, tout de suite ils prennent un cours puis c'est comme bam, ça c'est moi, ça c'est ce que je m'en vais faire. Mais les personnes sur ressources sont vraiment là. Fait qu'il y a vraiment des gens avec qui on peut parler qui sont là pour ça. J'ai un verset aussi, juste pour lancer ça, pour qu'est-ce qui me touche, ou pourquoi moi je trouve ça vraiment important, ce projet de traduction là. C'est les projets de traduction, c'est de 2 Timothée 3, verset 14 à verset 17. Ça dit: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Puis je pense que on a vraiment une chance d'être ici puis d'avoir le choix de quelle traduction qu'on utilise. J'aime pas la Colombe, j'aime pas aussi, je vais prendre la Semeur, je vais prendre la Louis II. On a cette possibilité là, on a cette richesse là ici de pouvoir non seulement avoir accès à la Bible, mais de choisir laquelle qu'on veut. D'en apprendre parler, d'en entendre parler, puis d'apprendre par rapport à ce que Dieu nous partage dans la Bible, dès qu'on est né, quand on est jeune, si on est né dans une famille chrétienne, puis ça, c'est vraiment une chance qu'on a, puis vraiment un privilège. Puis je trouve que le fait de pouvoir travailler pour rendre ça disponible un peu partout dans le monde, c'est vraiment quelque chose d'important de savoir que ça se passe, puis être prêt, en tout cas de votre côté, ça peut être d'être prêt à prier pour ces gens-là qui font ça, incluant moi, incluant les autres personnes avec qui j'étudie, pour préparer à faire ça, pour rendre la parole de Dieu disponible partout dans le monde, justement. Ok, ça c'est bon.
Je vais juste vous demander de vous joindre à moi, on va prier pour Daniel. Seigneur Dieu, merci pour tout ce qu'on a entendu de notre frère, toute l'énergie, la sagesse qui a été développée au cours des siècles, Seigneur, pour savoir comment pouvoir amener ta parole, ces gens-là qui ont eu à cœur que justement la richesse de ta parole qui est utile pour convaincre, corriger, instruire, conduire dans la justice. Seigneur, ces gens-là, au début, ont eu à cœur de développer ça pour les gens moins atteints, moins qui n'avaient pas accès à ça. Et c'est encore le cas maintenant, Seigneur. Et je te remercie pour notre frère qui nous a partagé toute la persévérance qu'il démontre dans ses cours. Seigneur, on te prie de le diriger, comme il disait, au fil des mois, au fil du temps qui s'en vient, qu'il puisse voir dans quelle direction aller précisément. Je te prie aussi pour son mariage qui s'en vient avec Renate. Et on te prie vraiment, Seigneur, de leur donner beaucoup de bonheur, beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Et Seigneur, protège notre frère, protège tous ceux qui sont dans le domaine de la traduction. Et merci de l'avoir mis parmi nous ce matin. Et on te prie que ta bénédiction soit sur lui et qu'il soit une bénédiction, que ta face luise sur lui et qu'il puisse rayonner de toi, Seigneur. Et réaliser Benoît, les peuples qui refusent d'avoir la Bible écrite, ils doivent avoir un témoignage vivant, la Bible qui marche. Et ça, Seigneur, c'est nous. C'est nous tous les jours qui devons rayonner comme Moïse rayonnait après avoir passé du temps avec toi, rayonner de ta gloire. Et c'est ma prière pour mon frère Daniel ici, qu'il puisse rayonner partout où il va aller dans les mois qui viennent. Bénis-le abondamment et que ce soit des belles semaines devant lui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.